France Inter.
Aujourd'hui dans l'affaire sensible, El Chapo. Le 8 janvier 2016 est arrêté l'un des plus grands narcotrafiquants au monde, Joaquin Guzman, plus connu sous le nom d'El Chapo, qui veut dire le petit, le trapu, plus exactement ce qui définit bien la morphologie de notre homme. Mais si cette arrestation met fin aux activités du narcos le plus puissant du Mexique, il est toujours emprisonné depuis, elle ne ternit pas l'image quasi mythique qu'il s'est construite dans le monde entier. La légende Joaquin El Chapo, Guzman, repose autant sur sa personnalité, aussi mégalo que parano, que sur ses fameuses et flamboyantes évasions de prison. L'homme était d'ailleurs bien conscient de la dimension cinématographique de son parcours, puisqu'il voulait faire un film sur sa vie, avec Sean Penn dans le rôle principal. Mais loin des paillettes et des projecteurs, le parcours de cet homme ordinaire au destin hors norme raconte des décennies de violences commises sur l'autel du dieu dollar. Parce que El Chapo n'est qu'un symptôme du mal qui gangrène le Mexique et le continent américain dans son ensemble, des drogues et une corruption d'État qui n'ont d'égal que la violence qu'elles engendrent. Et puis El Chapo est comme les autres narcotrafiquants puissants qui s'appellent Pablo Escobar en Colombie ou Totorina en Sicile. Ce sont des barbares aux mains remplies de sang, des sans-foi ni loi, qui vont à l'encontre de tous les principes de la civilisation. Notre invité aujourd'hui, Romain Bolsinger, journaliste et co-réalisateur de la série documentaire Narcos Circus, disponible sur Canal+. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Juliette Proutot, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Hélène Bissiot.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Almoloya de Juárez, une ville d'une centaine de milliers d'habitants au centre du Mexique, à 90 km à l'est de la capitale. Comme la majorité du pays, elle est située en altitude, sur un plateau de pleine campagne, à peu plus de 2600 mètres de hauteur, largement dédié à l'agriculture, au maïs en particulier. Beaucoup de champs, donc, coupés par de grandes routes, un climat sec et froid, le paysage n'est pas verdoyant, pas de grands arbres touffus, non, juste des champs et des poteaux électriques. Mais si cette localité est connue, ce n'est pas pour ses plantations, non. C'est parce qu'elle abrite l'une des prisons les plus connues du Mexique, Altiplano, littéralement « Haut Plateau », un établissement pénitentiaire fédéral de très haute sécurité. Le dispositif semble tellement infaillible qu'Altiplano a la réputation d'être la prison la plus sûre de tout le pays. Construite dans les années 90, cette forteresse de béton est implantée au milieu de nulle part. Entourée d'un gigantesque no man's land, barricadée par d'imposants miradors, toute la zone est interdite de survol, qu'il s'agisse d'avions, d'hélicoptères ou de drones. Les murs font plus d'un mètre d'épaisseur et un brouilleur de fréquence installé dans l'enceinte de l'établissement empêche toute communication par téléphone portable non autorisée. Voilà pour le dispositif. Mais si la prison est célèbre, c'est aussi parce qu'elle abrite un certain Joaquin Guzman, plus connu sous le nom d'El Chapo, narcotrafiquant à la tête de l'un des cartels les plus puissants au monde, le cartel de Sinaloa. Enfin, elle abrite plus pour longtemps. Mais là, nous sommes en juillet 2015, et cela fait un an et demi que le baron de la drogue est enfermé ici. Son arrestation avait fait la une des médias du monde entier, tant c'était une victoire fondamentale pour le gouvernement et ses alliés américains. Elle est reprise par nos confrères de France 24.
Le gouvernement a voulu l'arrêter pour apporter la paix aux citoyens. Il y a eu tant de drames dans ce pays dernièrement. Et tout cela est lié à l'abondance de la drogue.
Le gouvernement a accompli son devoir. Nous avions besoin de ça pour voir de vrais progrès en matière de sécurité.
En principe, les conditions d'incarcération ici sont particulièrement difficiles. Cellules sans fenêtres, isolement 23 heures sur 24, et pas de visite, en dehors des enfants et de l'avocat. Mais bon, ça c'est le principe. En réalité, Guzman, 58 ans, a tous les privilèges, comme celui d'avoir son propre coiffeur, les visites de ses maîtresses ou encore une télévision avec toutes les chaînes. C'est d'ailleurs la télé qu'il regarde ce soir du 11 juillet, comme le révèlent les enregistrements de la caméra placée au-dessus de son lit. On y voit Chapo assis sur son lit, Il y a un espace de peut-être 2 mètres carrés en face de lui, avec un petit meuble sur la gauche, plusieurs bonbonnes d'eau en face, de quoi accrocher quelques habits, et à sa droite, un évier et un petit muret d'un mètre et quelques de haut qui encadre avec le mur la partie sanitaire de la cellule. On ne voit pas le sol à cet endroit. C'est une sorte d'angle mort prévu pour permettre une certaine intimité aux détenus. Toujours est-il qu'aux alentours de 20h50, El Chapo se lève de son lit et se dirige vers les sanitaires. Il se penche, semble regarder quelque chose, puis fait demi-tour, revient sur son lit et enfile ses chaussures. À ce moment-là, il a l'air très calme. Il s'appuie sur son lit pour se relever, retourne vers le coin douche, se baisse et disparaît derrière le muret. On ne le reverra plus. Enfin, plus ici. Les gardes mettent près de 3 heures à sonner l'alerte. Quand la nouvelle de l'évasion tombe, elle assomme les médias du monde entier. Et la voici reprise sur France Inter.
Le Mexique maintenant avec cette évasion extraordinaire. Le baron mexicain de la drogue, Joaquín El Chapo Guzmán, le baron de la drogue le plus recherché du monde. El Chapo est parvenu à s'échapper d'une prison de haute sécurité. Emmanuel Stills, El Chapo est parti pour la douche et il faut croire qu'il faisait très chaud car il s'est littéralement évaporé.
Les Mexicains se sont éveillés ce dimanche avec l'impression de vivre le scénario d'un film. Joaquín Guzmán, la légende vivante du narcotrafic, s'est évadé de prison par un tunnel d'un 1,5 km aménagé spécialement à cet effet. Le passage était éclairé, ventilé et il y avait même des rails pour évacuer les décombres. C'est un véritable camouflet pour le président Peña Nieto, surpris par cette nouvelle à sa descente d'avion en France où il effectue une visite d'État. Le chef du cartel de Sinaloa est considéré comme le principal responsable de la violence liée au narcotrafic au Mexique. Il serait aussi le criminel le plus riche du monde.
Un trou dans le sol de la douche, un petit escalier en PVC, un tunnel d'1,5 km de long par 1,70 m de haut, pourvu d'une ventilation à oxygène, de l'électricité pour alimenter les ampoules halogènes réparties tout au long du trajet, une moto fixée sur des rails, et voilà, le tour est joué. Mais si cet incroyable scénario a pu voir le jour, c'est parce que El Chapo avait des alliés dans la prison, évidemment. Et si le plus grand narcotrafiquant au monde bénéficie de soutien dans la prison, c'est que la corruption a rongé les plus hautes sphères de la politique. Et pour comprendre pourquoi Joaquín Chapo Guzmán incarne tous les enjeux qui structurent le paysage politique et criminel de son pays, il faut revenir aux origines de l'homme comme du trafic. La place du Mexique sur le marché mondial du narcotrafic va évoluer tout au long du XXe siècle, avec un premier virage dans les années 60-70. À ce moment-là, plusieurs phénomènes viennent perturber l'équilibre du marché et profiter au Mexique. D'abord, il y a le fait que la demande en héroïne et en cannabis augmente rapidement aux États-Unis et que, si le gouvernement américain s'attaque au problème, il commence par cibler la Colombie, premier fournisseur historique du marché aux États-Unis. Comme le rappelle Jean-Charles Olvera, chercheur de l'Office central pour la répression des stupéfiants, une première grosse organisation mexicaine se structure à Guadalajara, juste en dessous du Sinaloa, sur la côte pacifique. On est à ce moment-là au début des années 70, et c'est un docteur en médecine, Pedro Aviles Pérez, qui en est à la tête. Mais c'est en 1978, à sa mort, au moment où il est remplacé par un certain Miguel Gallardo, que cette organisation prend la forme d'un cartel, le premier grand cartel mexicain, celui donc de Guadalajara. Et celui-là va fabriquer la première porte d'entrée du narcotrafic sur le territoire mexicain. Et sur le territoire américain, surtout. Bien, le deuxième virage qui s'opère et qui est important dans notre histoire a lieu dans les années 80-90, d'abord avec la chute du cartel de Medellín en Colombie, qui fournissait près de 90% de la consommation de cocaïne aux États-Unis, et ensuite avec l'arrestation de Gallardo au Mexique en 1989. Arrestation relatée dans le Trésor de France 2.
Miguel Ángel Félix Gallardo, c'est son nom. Cet homme est considéré comme le plus grand trafiquant de cocaïne de toute l'Amérique latine. Comme ce continent est probablement le plus gros producteur, c'est donc le roi de la coke. Il vient d'être arrêté au Mexique. Cela faisait 9 ans que des polices de tous les pays, y compris celles des États-Unis, le recherchaient.
Il a été arrêté à Guadalajara. Sa fortune est très importante, plusieurs centaines de millions de francs. Pascal Deschamps.
La police mexicaine peut être fière de son coup. L'arrestation de Miguel Angel Gallardo, qu'elle avait tout lieu de redouter, a eu lieu en douceur, sans un seul coup de feu, dans cette luxueuse villa de Guadalajara, où le trafiquant coulait des jours paisibles avec sa famille. Un coup de filet spectaculaire et qui vient à point nommé. Dans quelques jours, le Congrès américain doit décider, comme chaque année, d'accorder à divers pays une aide financière dans leur lutte contre les trafiquants. La bonne foi du Mexique était jusque-là mise en cause par les Américains. Avec l'arrestation de Gallardo, Washington est comblé.
L'arrestation du premier grand baron de la drogue mexicain va anéantir son cartel. Et de ses cendres vont naître plusieurs cartels, dont le fameux Sinaloa. À ce moment-là, Joaquin Guzman a 23 ans. Et le Sinaloa, il connaît bien. Mieux, il y est né. Joaquin Archivaldo Guzman, Loera de son vrai nom, est né en 1957 dans l'état du Sinaloa. Comme une grande partie de ses plus fameux collègues narcos, il vient de la commune de Baliragado, dans les montagnes du Sinaloa. Une version mexicaine de Corleone, en Sicile. Le Sinaloa, c'est un état tout en longueur, situé sur la côte ouest du Mexique, face au Pacifique. C'est à la fois un état très peuplé, l'un des plus importants du nord-ouest du pays, très rural, montagnard, traversé sur toute sa longueur par les sommets de la Sierra Madre occidentale, la chaîne de montagnes qui prolonge les Rocheuses américaines. C'est un territoire très verdoyant, humide, un peu comme une jungle, mais en plus fertile. On dit d'ailleurs que tout y pousse. Cet environnement va jouer un rôle fondamental dans la vie de Guzman comme dans celle du Sinaloa. Un état réputé depuis le début du XXe siècle pour ses liens avec les narcotrafiquants. Son histoire est racontée dans un reportage Arte intitulé « Fentanyl, le nouveau poison des cartels ».
Le Sinaloa, sur la côte ouest du Mexique, le berceau des plus grands cartels mexicains. C'est là qu'ils ont fait leur fortune, avec la marijuana d'abord, puis est venu le temps des dérivés de l'opium, puis des méthamphétamines, avant que le fentanyl ne débarque avec fracas sur le marché. Dans le Sinaloa, le narcotrafic, c'est une culture, une économie, presque un art de vivre. Pour des villages entiers, cultiver la marijuana fut pendant des décennies une alternative à l'émigration. Comme ici, dans les campagnes du sud de l'État. Enfant, Armando accompagnait ses parents dans les champs de cannabis.
Mon père a vécu ce grand changement. Il est passé des cultures vivrières avec mon grand-père à la culture de la marijuana pour la vente.
Le choix de Joaquin Guzman ont-ils influencé le cours de l'histoire de son pays ou est-ce son pays qui l'a amené à être ce qu'il est devenu? C'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule ou du serpent qui se mord la queue, tant la vie de Guzman est imbriquée dans l'évolution politique du Sinaloa et du Mexique. En tout cas, il grandit dans un environnement où la drogue est omniprésente. Qu'elle se cultive sur place, comme le chanvre pour le cannabis, ou le pavot pour l'héroïne, ou qu'elle transite, comme la cocaïne colombienne. Guzman quitte l'école tôt, vers 10-12 ans, et fait partie de ces centaines de milliers de jeunes mexicains de conditions modestes à se mettre à travailler rapidement pour les paysans qui produisent des pavots. Mais le travail de récolte est dur, usant. Et Guzman ne compte pas passer sa vie les genoux dans la terre. Quitte à avoir du sang sur les mains, oui, parce qu'il est orgueilleux, ambitieux. Comme en témoigne son profil psychologique dressé par la CIA et repris dans le podcast de Vincent Rébois intitulé « La traque et le chapeau, le plus grand trafiquant de drogue de l'histoire ».
El Chapo possède un esprit vif et analytique, capable de sang-froid et conscient des réalités quand les choses ne tournent pas à son avantage. Il n'est pas impulsif, mais réfléchi. Il est déterminé à exploiter les faiblesses de ses adversaires pour leur infliger le plus de dommages possible. Il privilégie les relations familiales et accorde de l'importance aux amitiés loyales et anciennes.
Au début des années 80, Joaquin Guzman, que l'on commence à surnommer El Chapo, quitte le Sinaloa pour Mexico. À cette époque, ce territoire appartient à un vieux narcotrafiquant surnommé El Azul, le Bleu. Il fait pousser de la marijuana sur des hectares de champs, mais c'est avant tout un entrepreneur, donc il sait qu'il doit bouger, avancer, innover, s'il ne veut pas se faire dépasser par des jeunes loups. Et s'il y en a un qui a de la suite dans les idées, c'est bien Joaquin Chapo Guzman. Il commence en tant que pistolero, sicaire dans un gang, puis monte petit à petit les échelons d'un cartel, celui de l'Azul, qu'il rencontre et qui l'incite à s'engager plus fortement dans la cocaïne. D'abord parce que la demande explose aux États-Unis, ensuite parce que les cartels colombiens sont en difficulté. Le passage habituel de la drogue par la mer des Antilles pour rejoindre le sud de la Floride est de plus en plus surveillé, donc inutile. El Chapo le sait. Le Mexique va devenir indispensable au trafic de cocaïne. Il veut qu'El Azul se positionne rapidement sur un marché qui va vite devenir très concurrentiel. Le vieux narcotrafiquant est séduit. Il laisse son jeune collaborateur poursuivre cette piste. Et pour convaincre les Colombiens de lui confier le transit de la coke jusqu'aux États-Unis, El Chapo ne compte pas utiliser ni la voie des airs, ni celle de la mer. Non, ce qu'il propose est aussi simple qu'efficace. Un tunnel sous la frontière.
Llegarás mañana para el fin del mundo. O el año nuevo. Mañana te mato, mañana te libro. Estoy adelante, ya no tengo miedo. Mañana te digo que el amor se ha ido. Y después 7 años de exilio por haberte tanto. Llegarás mañana para el fin del mundo o el año nuevo. Mi esqueleto baila, se ataría de nuevo de su traje de carne, su peinado. Salgo a encontrarte a medio camino. Y después 7 años de exilio por haberte tanto.
Aujourd'hui, El Chapo.
France Inter. Affaires sensibles.
Au lieu d'imaginer des plans grandiloquents à coups de bateaux cargo et d'avions détournés coûteux et lents, Chapo imagine donc un tunnel sous la frontière. Oh, c'est pas lui qui invente l'idée. On en trouve tout long la frontière depuis la prohibition américaine des tunnels. Non, là où il innove, c'est dans sa façon de penser ces fameux tunnels. Il réfléchit de façon pratique, logistique. Il pense rail, ascenseur, chariot, oxygène, etc. Alors il attend de trouver la bonne opportunité. Ce qu'il cherche, 2 terrains face à face, de chaque côté de la frontière. Et il finit par trouver dans la petite localité d'Agua Prieta, située un peu au milieu de rien, dans un environnement aride. Ensuite, via un intermédiaire, il achète un autre terrain, côté Mexique, cette fois, sur lequel il fait construire une maison. Il fait aussi creuser une piscine. Enfin, supposément. En parallèle, il achète une usine à vendre, pile de l'autre côté de la frontière, côté américain. Et il fait creuser un tunnel d'une 100 mètres reliant les 2 sites. Côté Mexique, l'entrée du tunnel se trouve sous la table de billard, dans la salle de jeu. C'est un ingénieux système de vérins hydrauliques qui permet d'ouvrir la trappe. côté américain, le tunnel sort via les égouts jusqu'à l'entrepôt. Dans le journal The New Yorker, un associé de Guzman raconte « Avant même que les avions de livraison ne soient entrés en Colombie, la cocaïne était déjà à Los Angeles. » Et il reproduit ces tunnels à différents points de la frontière. La rapidité de ce système permet à El Chapo de grimper rapidement les échelons du cartel d'El Azul. En 90, après 3 ou 4 ans d'existence, le premier tunnel est découvert par la DEA, l'agence de lutte contre la drogue des États-Unis. Mais ce qui va changer la trajectoire de Guzman n'est pas tant cette découverte que la mort, 3 ans plus tard, d'un cardinal tué par une balle perdue en lieu et place du Chapo. Événement qui choque le pays dans son ensemble. Nous sommes le 23 mai 1993. Le journaliste Hector Moreno raconte dans la série Narcos Circus.
Ce jour-là, à l'aéroport de Guadalajara, il est environ 16 heures quand des coups de feu retentissent. Les gens se jettent à terre sans savoir d'où viennent les tirs. Quelques minutes plus tard, on découvre une voiture blanche. Et à l'intérieur, sur le siège passager, il y a le cadavre du cardinal Posadas Ocampo. Criblé de balles. C'est un choc au Mexique. La population est très majoritairement catholique et ne comprend pas qu'un dignitaire de l'Église puisse être assassiné. Qui est capable de tuer un cardinal ?
C'est que l'ascension de Chapo ne s'est pas faite sans heurts, parce qu'il a pris pas mal de place en peu de temps, parce que ses tactiques ont affaibli d'autres points de passage et donc d'autres cartels, El Chapo a commencé à se faire des ennemis. Mais pour comprendre les tensions qui agitent le monde des trafiquants à l'époque, il faut connaître les différents acteurs en place, les différents cartels qui régissent au Mexique. Sur la côte est du pays, il y a le cartel des Zetas. Au nord, il y a celui de Juarez. Au nord-ouest, à la frontière avec la Californie, se trouve le cartel le plus puissant, celui de Tijuana, avec à sa tête la famille Arellano Félix. Et enfin, le cartel de Sinaloa, celui du Chapo. Celui-là fonctionne comme un groupe de plusieurs familles qui se coordonnent. Il y a d'un côté la famille Beltrán Leyva, des cousins de Chapo. Une deuxième cellule dirigée par Ismael Mayo Zambada, alias El Mayo. Et une troisième conduite par Joaquín El Chapo Guzmán. Et c'est lui qui devient le leader de Sinaloa, en tout cas d'un point de vue médiatique. Pendant des années, l'existence et donc la cohabitation entre ces cartels a été rendue possible par le gouvernement mexicain lui-même. Et à 3 conditions, rappelées par la journaliste Annabelle Hernandez dans la série documentaire Narcocircus.
Pour tous ces cartels, il y avait des règles très claires. Ce que leur disait le gouvernement mexicain, c'est « Trafiquez comme vous l'entendez, mais il y a 3 conditions. La drogue ne reste pas au Mexique. Pas de meurtre ni d'extorsion. Et enfin, aucune organisation n'empiète sur le territoire des autres. »
Dans ces circonstances, on imagine bien que le meurtre d'un cardinal qui se prend une balle perdue dans une rixe entre 2 cartels, le tout devant un aéroport et un public médusé, n'est pas du goût du gouvernement mexicain. La mort du cardinal est un premier caillou dans la chaussure du cartel de Sinaloa. Mais ce n'est pas le seul, notamment pour El Chapo. Les crispations avec le clan des Tijuana se multiplient. Quand ce n'est pas El Chapo qui essaye de faire abattre les frères Arellano Félix, c'est l'inverse. La violence déborde entre les bandes rivales. Le gouvernement mexicain lance alors une chasse à l'homme, plus ou moins efficace, à l'encontre de ces 3 trafiquants. Des millions de pesos sont offerts en récompense de leur capture. El Chapo est arrêté la première fois en juin 93 à la frontière entre le Mexique et le Guatemala où il essayait de se cacher. Condamné à 20 ans de réclusion, on le transfère à la prison de haute sécurité de Puente Grande, près de Guadalajara, au nord-ouest de Mexico. Et pourtant, la décennie qu'El Chapo va passer entre les murs de Puente Grande sera l'une des plus prolifiques de sa carrière. Et le pire est encore à venir. Car ce n'est pas par hasard si El Chapo est incarcéré dans la prison de Puente Grande. C'est parce qu'il en a décidé ainsi. Parce qu'il a payé les bonnes personnes pour être certain d'être enfermé dans cette prison-là et pas une autre. Il sait pertinemment que l'établissement est corruptible. Dans son ensemble, et à l'inverse d'autres établissements pénitentiaires, Puente Grande peut être acheté. Et Chapeau va l'acheter, petit à petit, et littéralement. Il verse des salaires aux gardes, sans rien leur demander en échange, en tout cas pour le moment. Il a le droit à toutes les visites de ses nombreuses maîtresses, à son propre cuisinier et à un téléphone. C'est peu dire qu'il mène la grande vie. Un avocat, Ortega, est allé rendre visite à El Chapo pour avoir des informations concernant la mort du cardinal. Jean-Paul Marie, grand reporter, raconte cette anecdote au micro de Dorothée Barba sur France Inter.
Donc, José Ortega voulait voir El Chapo.
Donc, il a rendez-vous. Il arrive à l'heure prévue, 10h30 du matin. Et on lui dit, bougez pas, attendez. Et il attend. Et il va attendre 12h. Et puis, vers 22h30, enfin, la porte s'ouvre. Et on voit arriver El Chapo, et qui s'installe avec le directeur de la prison. Et alors là, on n'est pas dans un parloir avec une vitre blindée, etc. Non, non, c'est dans le salon, dans le bureau du directeur de la prison. Et il s'installe, très à l'aise. Il propose du café, des sodas, des biscuits. Il reçoit. Quand Ortega lui dit « Mais vous avez été retardé », l'avocat, il lui dit « Oui, oui, j'ai reçu une visite conjugale ». Ensuite, j'ai pris un petit bain de vapeur, j'ai fait une sieste, et puis me voilà tout frais pour vous.
Voilà, donc, il était comme chez lui en prison, finalement.
Il est plus que comme chez lui, c'est le patron de la prison, quoi.
Le problème pour El Chapo, finalement, ce n'est donc pas tant la prison, puisqu'il y est plutôt bien, et qu'il arrive à gérer l'établissement pénitentiaire, non. Ce qui irrite le narcotrafiquant, c'est que certains de ses adversaires profitent de cette situation. En particulier, le cartel de Tijuana et des Arellano Félix, à qui il voue une haine viscérale. Alors, pour détruire ses ennemis, il se dit qu'il y a peut-être moins coûteux et plus efficace qu'une énième guerre des cartels. Pourquoi ne pas simplement les livrer aux Américains? Il décide donc d'organiser une rencontre en prison, avec un agent de la DEA. Cet agent raconte dans la série Narcos Circus, et ça ne s'invente pas, il s'appelle Bond. Pas James, hein, lui c'est Joe. Et nous sommes en 1997.
Je suis Joe Bond. Je suis le seul agent de la DEA qui ait rencontré Chapo personnellement et à sa demande. Mais un agent de la DEA dans une prison mexicaine, je risquais de me faire tuer. Alors Washington a eu l'idée de me faire passer pour un psychiatre. Donc je rencontre le directeur, on me conduit à l'unité psychiatrique et il m'amène Chapo Guzman. Il s'est mis à genoux pour vérifier que personne n'était derrière la porte pour écouter. Et là, je lui ai demandé, « Chapo, qu'est-ce que vous attendez de nous ?» Il a répondu, « Je peux vous livrer les Arellano Félix. Je vais vous donner toute l'organisation. J'ai des gens infiltrés dans le cartel qui peuvent me dire où et quand on peut les trouver. Et vous n'aurez plus qu'à les choper. » J'ai répondu, « Ok, Chapo. »
Les Américains vont mettre un moment à utiliser les informations communiquées par le Narcos. Et entre-temps, il s'est fait la malle. Nous sommes en 2001 et la légende veut que le Chapo se soit évadé en se cachant dans un sac de linge sale évacué via la blanchisserie. La réalité est un peu moins flamboyante. Il a corrompu la totalité de la prison, ou presque. Parce qu'on l'a vu, c'est lui le patron. Et il sort simplement parce qu'il l'a décidé. L'année suivante, la DEA transmet à l'armée mexicaine les informations concernant les barons du cartel de Tijuana. En 2002, son chef, Benjamin Arellano Félix, est arrêté. L'organisation ne se relève pas de cette amputation. En 2003, c'est le cartel de Juarez qui tombe, toujours grâce aux informations communiquées par l'équipe du Chapo. Et à qui profite le crime ? Au cartel de Sinaloa, évidemment, qui s'agrandit sur les cendres des territoires de ses anciens adversaires. Et tout le monde semble plus ou moins favorable à cette issue. Parce qu'au lieu d'avoir affaire à une multitude de cartels, d'organisations, le gouvernement mexicain, largement corrompu, préfère discuter avec un interlocuteur, un seul. Et puis pour les Américains aussi, ça semble être une bonne affaire, puisque les renseignements des Chapo leur permettent de réaliser d'importants coups de filet, largement médiatisés auprès de l'opinion publique aux États-Unis. Pendant 14 ans, entre son évasion dite du bac à l'insal et son arrestation de 2014, El Chapo se construit un empire. Sa fortune est estimée à plusieurs milliards de dollars. Il figure même dans le classement du magazine Forbes et son organisation, qui regroupe plus de 100 000 membres, eh bien ressemble davantage à une multinationale qu'à un cartel. Mais le parrain de Sinaloa finit par devenir un peu mégalo, un peu trop. Il a envie de lumière, de plus d'attention encore. Alors il donne des interviews à Sean Penn pour le magazine Rolling Stone. Il veut qu'un film soit réalisé sur sa vie. Bref, il a envie de parler, il a envie de se montrer. Mais personne n'a intérêt à ce que El Chapo raconte ce qu'il sait, comme l'explique la journaliste Annabelle Hernandez dans la série documentaire Narcocircus.
El Chapo Guzmán a perdu sa lucidité. Il voulait faire un film sur sa vie. Qui, à la DEA, voudrait que Chapo Guzmán raconte la véritable histoire de sa vie? Et soudain, El Chapo est devenu un problème pour tout le monde. Pour El Mayo, pour la DEA, il fallait le faire taire.
Et puis la paix ne règne pas encore au Mexique. Il reste des poches de résistance à Chapo parmi d'autres narcotrafiquants. Notamment le cartel de Los Zetas, particulièrement violent et composé d'anciens militaires. Contrairement à ce qu'avaient prévu les Américains, le monopole du narcotrafic accordé à Sinaloa n'arrête pas la violence. El Chapo est donc arrêté en 2014, puis envoyé à la prison d'Altiplano. La suite, on la connaît, il s'évade par un tunnel en 2015 et il devient l'homme le plus recherché du monde. Sa capture est mise à prix 35 millions d'euros. Et il est arrêté une dernière fois l'année suivante, le 8 janvier 2016. La nouvelle fait la une du journal du soir de France Inter.
Mission accomplie, nous le tenons. C'est par cette formule triomphale que le président Enrique Peña Nieto a annoncé via son compte Twitter l'arrestation du narcotrafiquant le plus recherché du Mexique. Joaquín Guzmán a été arrêté dans le port de Los Mochis, dans l'état du Sinaloa, sa région natale, qui donne son nom au cartel qu'il dirige. Mexico, Emmanuel Stills, France Inter.
Extradé aux États-Unis, jugé à New York, El Chapo est condamné à la prison à vie. Est-ce une victoire? Peut-être. Mais une chose est sûre, la violence n'a pas baissé au Mexique depuis l'arrestation de Chapo. En 2018, le narcotrafic a fait plus de 11 000 morts. La crise des opioïdes ne s'est pas non plus calmée aux États-Unis. Plus de 110 000 Américains sont morts décédés d'une overdose en 2022. C'est l'équivalent de la population de Rouen ou de Nancy qui meurt chaque année aux États-Unis, victime de la drogue, victime du commerce des cartels. Vous écoutez Affaires Sensibles aujourd'hui. El Chapo, notre invité Romain Bolzinger, bonjour.
Bonjour.
Voilà, journaliste et co-réalisateur de la série documentaire Narcocircus, cité plusieurs fois dans ce texte. Série toujours disponible sur Canal+, et dont s'inspire en partie cet épisode. Alors, la mythologie populaire, médiatique, fait d'El Chapo le narcos le plus sanglant de l'histoire, mais dans les faits, est-ce que c'est vraiment lui le plus sanguinaire? Parce qu'il y a eu quand même Escobar, qui n'était pas un ange non plus. Totorina, en Sicile, qu'on appelait carrément la bête, vu la violence qu'il décuplait à chacune de ses sorties. Donc comment se place El Chapo par rapport à tous ces grands criminels?
El Chapo, comme Escobar, est devenu célèbre parce qu'il a défié l'Amérique. À un moment donné, l'Escobar a défié l'Amérique lorsqu'il s'est opposé au processus d'extradition. Il a déclaré la guerre au gouvernement colombien et donc aux États-Unis. El Chapo, à son corps défendant, je pense que ce n'était pas vraiment son intention, il a défié l'Amérique en multipliant les évasions de prisons de haute sécurité, donc des prisons dont normalement on ne s'échappe pas. Mais El Chapo est aussi une construction médiatique. Les Américains aiment avoir des ennemis publics numéro un. Les policiers américains aiment avoir des ennemis publics numéro un pour justifier leur guerre, justifier leur existence. Et donc, El Chapo a été un petit peu gonflé médiatiquement, a été un petit peu gonflé par la police. Voilà, il a été jugé responsable d'énormément de choses qui ne lui revenaient pas forcément. Et on a, alors il avait un réel pouvoir au sein du cartel de Sinaloa, mais il n'en a jamais été le chef en réalité. C'est son compadre, El Mayo Zambada, qui, lui, n'a jamais fait une seule minute de prison en 50 ans d'exercice, et qui est toujours, aujourd'hui, dans les montagnes du Sinaloa, et qui, lui, tire toujours les ficelles, alors que Chapo, lui, est dans une prison de haute sécurité.
Alors, l'arrestation de Chapo, c'est un trophée, en quelque sorte. C'est un vrai trophée.
Pour les Américains, c'est un trophée. Le directeur de la police de Chicago l'avait déclaré ennemi public numéro un. Les présidents s'en étaient mêlés. Il avait carrément une cible vraiment dans le dos. C'est aussi ce qui a provoqué la course en avant, la fuite en avant d'El Chapo lorsqu'il veut faire ce documentaire avec Sean Penn. Ça va précipiter sa chute, mais il sait qu'il va tomber. Il sait qu'il va finir par se faire arrêter. Et donc, il a envie de laisser une trace. Et c'est ce qui va le perdre, puisque c'est comme ça qu'il va se faire arrêter.
Et quand on se penche sur la psychologie de ces gens-là, que ce soit Escobar, Totorina ou Chapo, ce sont des grands mégalos. Souvent, ce sont des gens qui viennent presque de nulle part et avec un appétit de pouvoir énorme. Et de mégalomanie aussi, se montrer briller.
Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. D'abord, on pense souvent que la motivation des narcotrafiquants, c'est l'argent. Et c'est pas vrai. La volonté de Totorina, la volonté de Pablo Escobar ou d'El Chapo, c'est l'addiction au pouvoir.
Ouais, c'est ça.
Avec l'argent, on peut tout acheter. On peut même acheter des gens. Le pouvoir est quelque chose qui est fragile et qui peut disparaître. On est systématiquement en compétition avec d'autres narcotrafiquants. On est en compétition avec l'État au Mexique. La plus grande mafia, c'est l'État et la plus puissante.
Ouais.
Et donc, il y a cette compétition pour le pouvoir qui les maintient en vie, en fait. Et c'est le but ultime, en fait, de tous ces trafiquants de drogue, c'est d'acquérir un pouvoir quand on vient de rien. Que ce soit Totorina, Escobar ou El Chapo, c'est des gens qui viennent de tout en bas. La nouvelle génération de narcotrafiquants, c'est-à-dire les enfants de ces gens-là, les enfants d'El Chapo, n'ont pas du tout le même profil. C'est des gens qui ont fait des études, c'est des gens qui ont été dans des grandes universités, y compris des universités américaines, qui ont étudié le business, la comptabilité, et qui sont pas dans cette même logique, et qui vont être beaucoup plus difficiles à arrêter.
Sont-ils moins violents, moins barbares, moins brutes de pommes?
Alors, les fils de Chapo sont tout aussi violents que leur père. De toute façon, la seule façon de maîtriser leur pouvoir, c'est la violence. Et c'est ce qui, effectivement, comme vous le dites très bien, relie Escobar, Totorina et El Chapo.
Alors, les évasions ont rendu El Chapo célèbre. Mais il y a quand même la corruption de ceux qui le gardent, de la prison et de l'État, jusqu'au plus haut sommet de l'État au Mexique. Et c'est un point vraiment important, corruption.
Alors vous le racontiez dans votre épisode, vous racontiez qu'il recevait ses maîtresses à la prison de
l'Altiplano. Ah oui, c'était l'hôtel 4 étoiles, hein, Club Med.
Eh ben, il recevait une de ses maîtresses qui était députée du Sinaloa.
D'accord.
Elle était sa maîtresse avant d'être députée. Ça vous explique qu'en fait... El Chapo a une maîtresse, elle a 24 ans, il va la faire élire sans difficulté au Parlement du Sinaloa. Et elle va pouvoir aussi lui rendre visite en prison. Donc si vous voulez, au Mexique, il faut avoir conscience que les narcos ont un réel pouvoir. Ils sont en compétition avec le pouvoir fédéral, avec le pouvoir central. Mais le pouvoir lui-même central, le pouvoir fédéral, est une immense mafia. Il n'y a pas de narcos sans corruption, ça c'est évident. Mais au Mexique, il y a une spécificité, c'est ce qu'on appelle la mordida. Donc la mordida, c'est une corruption systémique qui commence tout en bas de la société. Ça commence au policier qui est au coin de la rue, jusqu'au président. Au président fédéral. Et donc, il y a des États du Mexique, à l'heure où on parle aujourd'hui, où des gouverneurs sont des chefs de cartel, dirigent le trafic de drogue. On a des généraux au plus haut sommet de la hiérarchie militaire mexicaine qui sont des chefs de cartel. On a des procureurs qui sont des chefs de cartel. Donc, les narcotrafiquants sont souvent aussi, comme El Chapo ou d'autres, les lampistes de service du gouvernement mexicain qui permettent de représenter ce mal incarné. Mais en réalité, le trafic de drogue est parfaitement administré par l'État au plus haut niveau.
Donc, c'est un phénomène endogène au pays, ce qui rend la sortie de cette corruption difficile, j'imagine.
il n'y a pas de guerre contre la drogue. C'est complètement faux, en fait. Mmh. C'est une pure construction médiatique, c'est une construction pour l'électorat et l'opinion. Si on voulait réellement s'attaquer au problème du trafic de drogue, il faudrait s'attaquer à la demande, c'est-à-dire aux gens qui en consomment. Et les polices du monde entier, mais en France, comme en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, ils le savent pertinemment. On n'arrêtera pas, on coupe une tête, il y en a trois qui repoussent. Donc, tous ces gouvernements, que ce soit en France, aux États-Unis ou au Mexique, ont une tentation très forte qui est de l'administrer, c'est-à-dire d'avoir des accords plus ou moins avec certains cartels ou certains narcotrafiquants qu'on ne va pas forcément protéger ouvertement, mais qu'on va laisser œuvrer, au moins pour que les choses soient stables.
Ouais. Et bien sûr, tout le monde se sert au passage. Au Mexique, en tout cas.
Au Mexique, en tout cas.
France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Romain Bolzinger, on a parlé de la corruption du gouvernement mexicain, elle est connue. Qu'en est-il de l'implication des Américains, qui, je crois, étaient d'accord pour que le trafic ne soit plus qu'entre les seules mains du cartel de Sinaloa?
Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Comme on disait tout à l'heure, les Américains aiment avoir des ennemis publics numéro un. Dans les années 90, l'ennemi public numéro un, c'est les Arellano Félix. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très violents et qu'ils commettent des meurtres, y compris aux États-Unis. À l'époque, Chapo est complètement inconnu. Personne ne sait qui c'est, ni au Mexique, ni aux États-Unis. C'est un petit narco parmi d'autres. El Chapo va s'avérer être très utile à la DEA. On a rencontré tous ces agents de la DEA qui parlaient pour la première fois, qui nous racontent comment El Chapo devient un informateur de premier plan. Il est en guerre ouverte avec ce cartel depuis des années, pour des histoires de femmes, à l'origine. Il va fournir des informations sur l'organisation et permettre des arrestations spectaculaires.
De la corruption, finalement, c'est de la méthode d'investigation.
C'est la méthode essentielle de toutes les polices anti-stupes du monde, hein. En France comme ailleurs. Pour obtenir des résultats quand on fait de la lutte anti-drogue, on a besoin d'informations. Et quand on obtient des informations, il y a une contrepartie.
Ouais.
Et donc forcément, El Chapo a bénéficié d'un certain nombre de contreparties. On l'a laissé un petit peu tranquille, on l'a laissé travailler. Il était lui-même de toute façon protégé par le gouvernement, par le président de l'époque. Et donc de toute façon, les Américains savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas s'en prendre à El Chapo Guzman. C'est pour ça que pendant 14 ans, il est tranquille. Les Américains vont contribuer à l'ascension d'El Chapo Guzman. Et les policiers qu'on a rencontrés au cours de ce tournage nous l'ont confirmé.
Oui, mais il se justifie en vous disant « faut bien des méthodes ». C'est pas comme la corruption du gouvernement mexicain où tout le monde se sert au passage. Là, on est dans un mode opératoire.
Alors, il y a de la corruption aux États-Unis aussi. Il y a aussi des policiers qui sont corrompus. Il y a une enquête qui a été révélée par une organisation non gouvernementale américaine qui a révélé qu'il y avait eu plus de 700 gardes frontières aux États-Unis qui ont été condamnés dans les 10 dernières années pour des affaires de corruption.
Donc ils ont touché de l'argent pour laisser passer, quoi.
Ils touchaient de l'argent, mais ils ont été carrément infiltrés. Dans les années 2000, après le 11 septembre, il y a eu une politique de recrutement massif auprès de gardes frontières pour protéger la frontière. Et les cartels en ont profité pour faire rentrer des Chicanos, donc des Mexicains américains qui avaient la nationalité américaine, qui ont infiltré directement la Border Patrol. Mais c'était vrai aussi, les années 80-90, il y a eu tout un tas d'affaires de juges, de procureurs qui se faisaient aussi graisser la patte. La réalité, c'est que lorsqu'il y a un procès médiatique comme le procès d'El Chapo, on parlera pas de la corruption aux États-Unis, on parlera de la corruption au Mexique, mais on traite jamais de la corruption aux États-Unis.
Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le fentanyl? C'est une drogue, hein. Apparemment, elle a changé les équilibres pour le milieu narcos.
Alors le fentanyl, c'est un opioïde de synthèse extrêmement puissant qui se mélange à d'autres drogues. Et en fait, elle est le résultat d'une politique américaine à l'origine. Vous avez d'ailleurs consacré un épisode très intéressant sur la famille Sackler et sur les opioïdes de synthèse dans la fin des années 90 et les antidouleurs. On finit par se rendre compte un peu tard que ces antidouleurs sont extrêmement addictifs, on les interdit, et donc il y a une grande partie de la population, des millions de gens, qui vont se tourner à ce moment-là vers l'héroïne et la cocaïne. Et donc les cartels mexicains, qui sont des businessmen, voient qu'il y a un marché à ce moment-là. Ils importent effectivement de Chine les molécules qui permettent de fabriquer donc ces opioïdes de synthèse, dans lesquelles il y a du fentanyl. Aujourd'hui, le grand risque du fentanyl, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que le fentanyl est une drogue 100 fois plus puissante que l'héroïne. Dans une dose de crack ou dans une dose d'héro, si vous mettez 2 grains de sel, le consommateur de drogue va être très content, il va se faire une montée fantastique. S'il y a un 3e grain de sel, il fait une overdose. Donc le problème, c'est que le produit est tellement puissant, il est tellement quasiment impossible à parfaitement mélanger dans les doses, que les overdoses sont énormes.
Ouais, c'est ce qui explique, bien sûr, les dégâts sont considérables.
C'est ce qui explique cette épidémie d'overdoses aux États-Unis depuis une dizaine d'années. On est à plus de 110 000 morts l'année dernière, et les autorités américaines ne savent plus comment faire.
En 2020, Sinaloa comptait près de 10 000 membres de cartel, avec un chiffre d'affaires estimé à 3,5 milliards de dollars. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui parler de cartel ? Ne vaut-il pas mieux parler de multinationales, carrément ?
Ce sont déjà des multinationales depuis longtemps. Tous les narcotrafiquants, quels qu'ils soient, d'ailleurs que ce soit en Sicile ou ici, n'ont qu'un seul objectif, c'est de blanchir leur richesse et de pouvoir l'intégrer à l'économie réelle. C'est aussi la meilleure façon de se cacher des représailles et donc de pouvoir justifier auprès du fisc, des flics, que l'argent a une origine réelle. Et donc, au Sinaloa, par exemple, dans le Sinaloa, on considère que 72% de l'économie est infiltrée par l'argent de la drogue. Les zones touristiques qu'on connaît tous, sur lesquelles on va, peut-être certains d'entre nous, en vacances, à Tulum, le Yucatan, etc. La plupart de ces hôtels sont financés avec l'argent de la drogue. La plupart de ces infrastructures sont financées avec l'argent sale.
On a beaucoup parlé de la Colombie pendant des années, des décennies, le pays des cartels. Manifestement, le Mexique est le premier pays des cartels de la drogue, beaucoup plus que... Où en est la Colombie, depuis la chute d'Escobar ?
Alors, ce qui s'est passé donc dans les années 90, c'est que effectivement, les États-Unis ont mis le paquet avec le plan Colombie, etc. Ils ont mis le paquet sur le cartel de Cali et le cartel contre le cartel de Medellín. Au passage, à l'époque, ils avaient réussi à démanteler le cartel de Medellín avec l'aide du cartel de Cali. Donc, on était déjà dans cette logique. Simplement, l'État colombien à l'époque était beaucoup plus faible. Il était corrompu, c'est sûr, mais beaucoup plus faible. Les Mexicains à l'époque, Carlos Salinas et son frère, le président donc, vont organiser eux-mêmes le trafic de drogue. Ils vont convoquer des grands chefs narcos mexicains avec des Colombiens, avec des généraux de l'armée, et l'État mexicain va lui-même organiser au plus haut niveau le trafic de drogue pour que cette manne ne passe plus par les Antilles, mais passe par le Mexique, et donc permette aussi de financer les partis politiques et remplir les poches des politiciens.
Bien, merci infiniment et bravo pour Narcos Circus documentaire, parce que travailler sur un milieu aussi fermé et secret par définition, ça n'a pas dû être facile, mais seul le résultat compte. Bravo, merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, El Chapo, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Romain Leborgne.
Affaires Sensibles est un podcast France Inter.